allons surtout prendre un temps ensemble dans la prière, mais avant de le faire, j'aimerais vous encourager à prier pour certaines choses, plutôt même pour certaines personnes, de vous donner quelques informations aussi à propos de nos frères et sœurs. Et j'aurai une info plus particulière, mais je pense que pour beaucoup, vous en avez déjà reçu certaines choses. Tout d'abord, de vous encourager à continuer de penser et à prier pour notre sœur Adeline, qui, je l'ai appris ce matin même, est à Lisbonne, dans une maison de convalescence. Donc voilà, il nous sera plus difficile de pouvoir la visiter, puisqu'elle est au loin, dans son propre pays, là-bas. Donc continuons de penser à elle, par rapport aussi à ce qu'elle traverse dans sa maladie. Je vous invite aussi, je ne sais pas si notre frère est là, mais à prier pour notre sœur Janide Milbain, qui elle aussi est affectée par maintes difficultés dans son corps. Et je pense là aussi se retrouve elle-même affectée spirituellement, parce que ça lui est difficile aussi de supporter tout ce qu'elle subit. Donc je n'en dis pas plus, parce que je n'ai eu que des informations ce matin par le biais d'une sœur. J'espérais la voir et ça n'a pas été facile cette semaine. Mais voilà, de vous encourager aussi à porter dans la prière notre sœur Janide. Et puis pour ceux qui en auraient la possibilité, de pourquoi pas aussi aller la visiter. Je pense qu'elle a besoin de notre présence au courant des jours et des semaines qui viennent. Et puis surtout de vous donner un dernier sujet de prière, puisqu'il est très probable que le temps de prière que nous allons avoir, bien qu'il se doit de se tourner vers notre Seigneur pour lui dire combien nous l'aimons et nous l'admirons, et essayons de le garder aussi dans notre prière, mais de penser à la famille Locatelli. Je pense beaucoup ont appris le décès de notre sœur Anne, qui a eu lieu pas plus tard que vendredi dans la nuit. Je sais que beaucoup ici la connaissaient bien, sont donc aussi affectés par son absence maintenant. Sachons, et je remercie la personne qui est tout à l'heure venue me voir alors que j'allais chercher quelque chose, qui est venue me dire qu'au courant de cette semaine, de ce début de semaine, avant même que le Seigneur ne la rappelle auprès de lui, le Seigneur avait communiqué à quelques-uns parmi nous, ou avait révélé même à quelques-uns parmi nous que notre Seigneur s'apprêtait à la rappeler. Mais dans cette révélation que nos quelques frères et sœurs ont reçue, c'était surtout aussi une consolation qu'ils ont reçue là, puisque le Seigneur voulait leur dire aussi que le Seigneur la rappelait dans sa présence, là où il n'y a nulle souffrance, nulle douleur, nulle larme, qu'aujourd'hui elle se trouve dans la paix d'être aux présences de notre Seigneur glorieux. Donc je remercie ceux qui m'ont apporté cela tout à l'heure. Donc voilà, je vous invite dans ce temps de prière, bien sûr, à dire notre adoration à notre Seigneur, à intercéder pour les frères et sœurs que j'ai mentionnés, et plus particulièrement donc à notre frère Jean-François, qui vient de perdre évidemment son épouse, à sa famille aussi, puisque ce sont là aussi des beaux-parents, des belles-sœurs aussi qui ont perdu une amie fidèle, mais plus encore aussi à toute la famille de Anne, qui pour la grande majorité se trouve là-bas au Cameroun. Donc de penser à eux aussi, et qui ont reçu certainement le choc de la nouvelle, ne s'y attendaient pas forcément, d'après ce que j'ai compris. Pensons à eux, et de vous remettre encore un dernier sujet, toujours pour la famille Locatelli, c'est que Jean-François, normalement, souhaite se rendre prochainement, quand cela sera possible, au Cameroun, avec le corps de son épouse, pour qu'elle puisse être enterrée là-bas. C'était le souhait d'Anne, et ça n'est jamais sans poser totalement de difficultés. Donc je vous invite aussi à remettre ce déplacement à venir pour Jean-François, sachant que ses propres parents à lui ont choisi de l'accompagner, mais pour l'instant n'ont pas de passeport valide, et donc voilà, ils ne savent pas s'ils vont les avoir à temps, et Jean-François serait rassuré aussi de savoir que ses parents pourraient faire le voyage avec lui. Donc voilà, c'est pêle-mêle plusieurs sujets, mais qui quelque part nous invitent à porter toute la famille Locatelli, la famille d'Anne aussi qui se trouve là-bas. Donc voilà, que chacun puisse, dans les libertés que Dieu nous donne, de pouvoir intercéder, de pouvoir dire notre reconnaissance auprès de notre Dieu, car il est miséricordieux. Nous savons qu'il nous accueille, chacun. Que nous puissions le faire aussi autant que possible, brièvement, pour laisser la place à chaque frère et sœur qui désire le faire avant ou après nous. Voilà. Et je conclurai bien sûr dans ce temps de prière. Prions maintenant. Thank you.
Thank you.
Seigneur, en ce matin où nous sommes venus te louer et nous incliner devant toi, il y a parfois des moments comme aujourd'hui où il nous est peut-être plus difficile de trouver la force de te parler. Mais Seigneur, ta parole est pour nous un grand réconfort et parfois elle sait mettre les mots que nous n'arrivons pas à trouver. Aussi, cette prière s'appuie sur les paroles de ce psaume où il est dit « Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Oui, béni soit l'Éternel, car Il nous a témoigné son merveilleux amour. Lorsque nous nous trouvions dans une cité assiégée, désemparés, nous nous disions, il ne se soucie plus de nous. Mais tu nous as entendus quand nous te supplions, quand nous t'appelions à l'aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Amen. Vient ce temps pendant ce culte en famille que nous avons aujourd'hui, dans ce temps de vacances scolaires, où nous allons aussi partager plus amplement autour de sa parole. Oula, s'il y a moyen de faire un petit quelque chose pour les micros, là. Ma voix est déjà assez puissante, je crois. Pas besoin de l'amplifier à ce point-là. Merci. Voilà. S'il y a parmi nous des enfants, bah très bien. Certains ont déjà compris ce que j'allais leur dire. Il n'y a même plus besoin de parler. Vous voyez comme certains entendent très bien leur pasteur, c'est magnifique. Si parmi nous il y a quelques enfants qui d'ailleurs souhaitent profiter un peu plus et veulent s'avancer, qu'ils n'hésitent pas à le faire, si d'autres préfèrent rester à leurs parents, bien sûr, ils sont très bien là où ils sont aussi. Mais voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous une courte méditation. Vous avez l'habitude pour beaucoup de m'entendre, je ne suis pas forcément le plus court qui soit, mais ce matin, je dois m'efforcer de faire beaucoup plus court. Et nous allons nous appuyer, même si je ne vais pas le lire tout de suite, sur un psaume connu, le psaume 23, dont le tout début du verset n'apparaît pas tout à fait là, mais on le devine presque au vu du titre qui vous apparaît. Or, la question n'est pas vraiment une question, mais vous allez voir aussi comment je souhaite l'aborder avec vous. Aussi, ce matin, j'aimerais avec vous tous qui êtes ses enfants, qui se sait enfant de Dieu aujourd'hui ? Levez la main. On a le droit d'être un petit peu interactif aujourd'hui. Hein. On est vraiment ses enfants. Donc voilà, réagissons tels des enfants, n'ayons pas peur. Merci. Nous sommes donc tous, en effet, ses enfants, mais certains sont plus jeunes parmi nous. Et j'aimerais, avec vous, redécouvrir une image, seulement une image biblique importante, que vous devinez déjà, je crois, pour ceux qui l'ont lue. Mais pour commencer, j'aimerais vous poser à tous, et laisser peut-être les enfants d'abord répondre, même si vous, les grands, vous avez déjà la réponse, à vous poser une question. Avez-vous déjà vu des modèles de robots, de robots qui peuvent vous habiller, qui peuvent vous préparer le petit déjeuner, qui peuvent, pourquoi pas, même si vous en avez un, promener votre chien, ou ne serait-ce que faire l'aspirateur à la maison? À vous. Alors, avez-vous déjà vu, j'ai pas dit, avez-vous chez vous, hein, on n'en est pas encore là. Alors, oh là là, ça y est, les enfants sont plus timides que je le croyais, zut alors. Donc personne n'a jamais, ne serait-ce que vu un robot qui fait l'aspirateur à votre place. Ça commence à se répandre un petit peu, c'est juste un peu flippant de voir ces choses-là, mais pourquoi pas. Alors, vous avez déjà vu des robots qui font des matchs de foot ? Ça, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Le PSG va être remplacé par des Ronaldo bioniques. Là. Je pense que leurs cachets seront moins coûteux. Et ce serait pas plus mal, d'ailleurs. Ça serait peut-être plus éthique, dans un sens. Mais n'allons pas jusque-là. Je sais que certains seraient révoltés de voir bientôt des équipes de foot à cette image-là. Mais ce genre de robot, vous en avez déjà peut-être vu chez vous, chez un voisin, celui qui aime tous les gadgets to-date. Des chiens robots. Vous n'avez même plus besoin de les sortir pour qu'ils fassent pipi, ils ne font plus pipi. Bon, par contre, ils ont plein d'autres besoins, mais celui-ci, il sautille, hein. Il galope, hein. Il va même très vite. Un robot même qui peut, alors pour ceux qui aiment les plantes vertes et qui en ont beaucoup chez eux, j'ai une sœur ici, dont je sais qu'elle aime beaucoup les plantes, voilà. Bientôt, peut-être, un robot pourra arroser vos plantes à votre place. Bon, ça paraît un peu encombrant juste pour arroser des plantes, mais... Et même mieux, un robot, pourquoi pas, ce ne sont là que des images virtuelles, hein. Il n'existe pas encore, je crois, mais un robot qui vous servirait votre petit-déj. Mieux que votre mari. Imaginez un peu. Ça, c'était plus pour les gants que je donnais la blague. Mais, de vous reposer encore une autre question, à vous tous, bien sûr, si vous deviez imaginer le robot du futur,
celui qui vous ferait à manger, à boire, qui vous apporterait du réconfort, qui vous protégerait, qui jouerait avec vous, pourquoi pas au foot. Vous voyez, ça a l'air de commencer à exister, et s'occuperait de tout pour vous. Il n'aurait plus rien ou presque à faire. Comment serait-il ? On ne va pas regarder sur sa taille. Tout à l'heure, on a essayé de voir quelle était la taille de Dieu, mais pour vous, comment pourrait être ce robot ? Essayez de me le décrire. Ce robot capable de presque tout, voire de tout. Dites-le-moi. Comment aimeriez-vous qu'il soit ? Alors, allez, les grands, vous avez le droit aussi de répondre. Hein. Je sens que les enfants n'osent pas trop. Alors, oui. D'accord. Pas trop grand, pas trop petit, mais comme nous, de notre taille, et puis plutôt qu'il me ressemble. Ce serait plus rassurant et plus sympathique. Je comprends. Merci. Alors, qui veut apporter encore une image du robot à venir que vous aimeriez avoir chez vous pour vous rendre tant de services innombrables.
Qu'il fasse tout à la maison.
Voilà. Au programme, qu'il sache tout faire. Je comprends. Même quand on n'est pas là, comme ça, on arrive, tout est prêt. C'est génial. Quoi d'autre, peut-être ? Ah, très intéressant. Un robot qui me lise une histoire tous les soirs. Mais avec une minuterie, hein, on ne dépasse pas les minuit quand même hein, dans l'histoire, sinon après les parents... Oui ? Qui te met au lit ? Ah, super ! En faisant des galipettes et tout, le toboggan même peut-être jusque dans le lit. Ouais, je comprends, j'aimerais bien aussi. J'aurais aimé en tout cas. Alors, peut-être encore, merci les enfants, hein. Très précieux. Je crois que là, les adultes n'osent pas trop dire, oh, je suis sûr qu'ils aimeraient bien aussi un robot qui les dépanne... qui décroche le téléphone à leur place. Oui, là-haut. D'accord. Merci aussi. Alors, quoi d'autre ? Bon, on a déjà là pas mal d'éléments de ce que pourrait être ce robot. Et je vais arrêter un petit peu là la réflexion autour des gadgets plus ou moins futiles que nous prépare notre avenir. Mais de vous poser la question presque identique, mais sous un autre angle. Alors, j'ai oublié de passer, mais connaissez-vous quelqu'un capable de faire, plus ou moins, hein, tout cela, et même plus, pour vous ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un à même de, je reprends les images que j'avais utilisées, mais de vous donner à manger, à boire, qui peut vous protéger aussi quand ça ne va pas, qui vous réconforte quand vous êtes au plus mal, qui même vous procure de la joie, autrement dit, qui s'occupe de vous. Oui, j'ai une main levée là-bas. Dieu. Merci. Merci pour la réponse. J'ai cru voir une autre main à un moment donné, je ne sais plus qui. Bon, c'est pas grave. Effectivement, merci pour la réponse. Tout à l'heure, je parlais de robots, il n'était que prétexte à souligner quelque chose que nous aimons plus encore et que nous attendons plus encore que l'avenir qui se prépare peut-être d'un point de vue technologique. Dieu est pour nous cette réponse. Et maintenant, je vais laisser un petit peu cette question très générale et devenir sur quelqu'un, un personnage, une personne qui a existé. Alors, je le mets comme ça, je sais que vous avez réponse, mais je m'adresse tout d'abord aux enfants. Est-ce que vous connaissez un certain David ? Alors, il peut y en avoir plusieurs, hein. Je dis bien un certain David. Alors, oui, qui est-il ce David, selon vous ? Celui que j'aimais là comme ça, sans trop en donner de précision. Un berger, intéressant. Vous connaissez un certain David qui fut ou qui est berger ? Non. Bon, on va voir, peut-être à le redécouvrir un peu alors. Bon, continuons d'avancer, mais j'aimerais moi en tout cas vous parler un petit peu de ce David. Alors, j'en connais plusieurs, mais il y en a un en particulier dont je veux vous parler un tout petit peu ce matin, et notamment de ce qu'il faisait avant d'avoir été choisi par Dieu lui-même pour être le roi sur son propre peuple, le peuple d'Israël. J'aimerais vous parler de ce David-là, parce qu'il y en a certainement d'autres dans l'histoire que nous avons retenus, nous. Mais, au fait, cela vient d'être dit, mais ce David, avant d'être roi, saviez-vous qu'il a été... Un roi, c'est quoi ? J'aurais dû le poser comme ça. Un roi, c'est quoi ? C'est une personne qui règne. En général, sa maison, elle ressemble à quoi ? C'est un truc fait de carton sous un pont, non. Hein. C'est plutôt en général une grande maison, qu'on appelle même plutôt palais. En général, d'ailleurs, c'est même plutôt luxueux parce que on lui donne beaucoup de sous et d'argent pour qu'il puisse être bien logé, apparemment, ou du moins il prélève beaucoup d'impôts pour pouvoir bien se loger. C'est comme ça, les rois, voire même parfois autres personnages, mais ils sont bien logés, ils ont un palais, ils vivent dans un certain luxe et un certain confort. Mais David, avant de vivre dans son confort, avant d'être roi, si je ne garde que cet aspect-là, fut berger. Et un berger, ce qu'on s'attend à ce qu'il vive dans un palais. Où il dort en général le berger, quand il est berger? Où dort-il le berger? Alors, vous ne savez pas? Qui a été berger ici? Ah zut, c'est un peu en perte de vocation, hein. Dommage. Un berger, ça dort plutôt dehors en général, du moins quand ça effectue son travail. Parfois, il rentre à la bergerie, mais beaucoup de bergers, en général, marchaient longtemps et ne rentraient pas forcément chaque soir sous un toit. Alors, de prendre un peu le temps de regarder à ce berger que fut David. Au sein de sa famille, savez-vous un petit peu, c'était une grande fratrie, hein, David avait un papa, une maman et puis plein de frères. Mais savez-vous un peu, au sein de cette fratrie, de ses frères et certainement de ses sœurs, elles ne sont que rarement évoquées, qui était-il? Où était-il placé? Dans l'ordre d'apparition, on va dire. Alors, David, c'était lequel? Le plus grand, le plus fort, le plus costaud, le plus ceci, le plus cela? Vas-y, Ethan. Le plus petit. Qui est le plus petit ici de sa famille? Même les grands ont le droit de répondre. Voilà, là-bas il y a un plus petit. Qui d'autre est le plus petit de sa famille? Alice, voilà. Bon, quelques-uns sont les cadets, les tout derniers. Effectivement, David, c'était le plus jeune de sa famille. Ce qui fait que même au jour où Samuel, le juge en Israël, celui que Dieu utilisait pour parfois annoncer certaines nouvelles, avoir une parole pour son peuple, le jour où Samuel est venu dans la famille de son père, chez son père même tout simplement, pour annoncer et désigner le roi qui allait remplacer l'actuel roi qui était Saül, il n'était pas forcément le meilleur des rois à ce moment-là. Samuel est venu, fut accueilli par le père de David, le père fit venir la plupart de ses fils, les plus grands, les plus forts, les plus gaillards, bref. Ceux en qui on se dit, il y a toutes les chances que ce soit lui. Il se passa quand même quelque chose quand Samuel arriva. On ne fit pas venir David. David ne fut pas invité à être là tout de suite. Le père fit passer chacun de ses plus grands, de ses fils, tout d'abord. Mais ce ne fut aucun d'eux qui fut désigné par Dieu et que Samuel put voir. Il a fallu aller faire même chercher David qui était encore au dehors, à garder les moutons en tant que berger, afin que et Samuel puisse annoncer qui allait être le nouveau roi et surtout que même son père comprenne que le regard et ce qu'il imaginait n'étaient pas forcément corrects. C'était au plus petit d'entre eux que le Seigneur s'adresserait pour devenir roi sur son peuple. Et ce petit bonhomme-là, bon, qui n'était plus si petit que ça, c'était un jeune homme, mais c'était quand même le plus jeune, celui à qui on n'ose pas confier tout de suite beaucoup de responsabilités. En général, on se tourne vers l'aîné, celui à qui on a tout rabâché en premier, et qui en général subit un petit poids, le poids des responsabilités que les parents veulent lui transmettre tout d'abord. David était un berger. À la fois un travail important, surtout à cette époque-là, aujourd'hui, on n'en a plus que très peu, notamment en France, par exemple. Il en existe, mais ils sont rares, très rares. Mais une tâche qui n'était pas considérée comme trop haute non plus. Et de vous poser la question à chacun d'entre vous, avez-vous déjà vu un berger? Un vrai berger? Oui. Toi, tu en as vu un, Ethan? Ouais. J'ai cru voir ta main levée aussi. Tu en as déjà vu un aussi? Alors, à l'un et à l'autre, où avez-vous déjà vu un berger? Dites-nous tout. Où était-ce? Vous avez déjà serré la main d'un berger? Vous avez déjà été avec lui prendre son bâton et puis... Alors, bon, merci en tout cas à vous deux. Est-ce que parmi vous autres, peut-être même les plus grands, vous avez déjà vu un berger? Un vrai berger? Non? Moi j'en ai vu un, hein. C'était mon grand-père. Bon, ça se faisait encore un peu de son temps, mais... Et vous autres? Oui? En montagne, voilà. Il est difficile de les trouver aujourd'hui, hein. On les croise plus trop au carrefour d'Antony, hein, les bergers. Hein. Les pauvres, ils auraient du mal à pouvoir travailler dans ce lieu un peu fou là pour eux. Enfin, pour nous d'ailleurs, peut-être aussi. Effectivement, aujourd'hui, à cette époque très moderne, où bientôt on aura peut-être des robots chiens qui iront chercher derrière les moutons en leur disant « va ici, va cela », la folie quoi. C'est une profession devenue rare. Mais bien qu'elle soit rare, je pense nous en connaissons encore quelques ressorts de ce qu'est cette profession, de ce que fut David, notamment, avant d'être roi. David, nous le savons par la Bible, lui fut berger dès sa jeunesse. Et il s'occupa notamment des moutons de son père. Et il a appris combien il est important de trouver à manger, à boire, pour les animaux sur lesquels il veillait. Parce que les animaux ne sont pas forcément très malins, hein. Les moutons encore moins. Hein. Vous savez un peu comment sont les moutons? Ils sont un peu bébêtes, hein, parfois. Il y en a un qui avance, les autres suivent bêtement. Hein. Ils ne se posent pas la question, on suit, quoi. Et alors quand il s'agit de trouver quelque chose, si le premier ne trouve pas, bah, les autres ils ne trouvent pas non plus. Hein. Enfin, j'exagère un peu, mais les moutons ont cette faculté, c'est qu'ils se suivent, sans trop se poser de questions. Ils ne sont pas là trop pour discerner, c'est le premier qui va le faire. Et le berger est très important parce que c'est lui qui va leur montrer le chemin. C'est lui qui va leur montrer où ils peuvent trouver à manger. C'est lui qui va leur montrer où ils peuvent trouver à boire. Il sait aussi, lui le berger, comment les protéger, notamment des animaux sauvages. Et les rares fois où en France on entend un tout petit peu parler de berger, c'est dans les temps où les moutons se font dévorer là-bas dans les Pyrénées. Et les bergers, là, commencent à râler en disant « ça n'est plus possible, les ours, les loups, pourquoi on les a réimplantés ?» Bon, bref, pour ceux qui en ont un petit peu entendu parler. Mais le berger, effectivement, est cet homme, ce gardien du troupeau, celui qui veille au danger, qui écarte le danger, qui chasse même parfois le danger. Et d'ailleurs, à propos de David, parce que c'est David qui m'intéresse, David, à un moment donné, lorsque en Israël, rien ne va plus. Le pays voisin, là, est en guerre avec eux. Et puis, ils sont venus avec leur armée, une grande armée, faite de Philistins, c'est le nom qu'on leur donnait à l'époque. Et puis, il y a juste un grand soldat qui se pointe et qui veut faire peur à toute l'armée d'Israël, quoi. Il est grand, hein. Vous savez, tout à l'heure, là, Gabriel a dit, vous avez vu Artin, hein, il est grand. Ben, imaginez deux fois la taille d'Artin, baraqué comme ça, ben... comme ça, je sais pas, mais énorme, quoi, costaud, quoi, qui fait vraiment peur. Hein. On va exagérer un peu, mais un grand gaillard. Vous savez, Goliath, ça vous dit quelque chose? Je ne vais pas reparler de Goliath, mais ce jour-là, David vient apporter à manger à ses frères qui sont, eux, soldats dans l'armée d'Israël. Et puis, il voit tous ces soldats d'Israël pétochards, là. Quoi? Seul lui vous fait peur? Non, j'exagère un peu, mais il est un peu comme ça, David. Et David, vous savez ce qu'il fait, là, à ce moment-là? Il y a Goliath, là. Il est là, tous les jours, il vient braver en disant « Qui vient m'attaquer? Allez-y, bande de petits, là. » En gros, hein. Et puis les petits, en face, effectivement, il ne les ramène pas. Et David, lui qui était le plus petit de ses frères, le plus jeune de ses frères, lui qui était simple berger, qui ne connaissait rien à la guerre, il se propose, lui, de défier Goliath. Et chose étrange, le roi, à ce moment-là, Saül, entend cela. Un peu étonné, hein. Il lui dit « Viens voir, toi, petit, là. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et on va aller écouter déjà un premier passage avant de venir au psaume que j'ai cité tout à l'heure. Ah bah oui, je l'ai là. N'allez pas le chercher, je vous le lis. Mais je vous donne quand même la référence pour ceux qui aiment noter. Ça se trouve en 1 Samuel 17, les versets 31 à 36. Et écoutez. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül qui aussitôt le fit venir. Et David lui dit... Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. C'est un peu osé, hein, mais il n'est pas fou. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. Or que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il y en a un, il est berger depuis sa jeunesse, là c'est un homme de guerre. fait pas le poids hein, dans un combat normalement. Et David répondit à Saül. Quand ton serviteur, et écoutez bien, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours, ça on en croise parfois en France encore, survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Il récupérait le mouton si vous préférez. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil. Alors déjà, là je me dis, mais quand même, je continue, hein, écoutez bien. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, le lion, l'ours, peut-être pas les deux en même temps, mais au moins l'un des deux, et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Pan, exactement. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, vous voyez, l'ours est plus fort que le lion, hein, dans la manière de dire de David, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux. C'est un petit, le Philistin. Moi, j'ai déjà vaincu des ours. Ouais, il ne se la pète pas, mais il montre qu'il n'a pas peur. Il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré, écoutez bien, c'est là que c'est important, de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül, je ne suis pas sûr qu'il l'a complètement rassuré, mais après tout, hein, il en veut, hein, le petit David, là. Donc, laissons-le faire. Mais entendez ce que dit David, là. Lui qui fut berger. Il n'a jamais été au combat, il n'a jamais eu l'expérience du combat. Théoriquement, il ne fait pas le poids face à un Goliath, et même n'importe quel des soldats de l'armée des Philistins. Et pour autant, dans la tâche qui était la sienne, celle d'être le berger au sein de sa famille, Dieu l'avait équipé, Dieu l'avait aidé, soutenu. Même quand tout d'un coup un animal sauvage venait pour dévorer et prendre parfois une bête du troupeau. Alors, on n'arrive pas trop à s'imaginer un certain David, pas forcément très grand, peut-être jeune adulte, hein, 18-19 ans, peut-être a-t-il quand même un petit paquet de muscles, mais quand même un lion l'attraper par le poil, ou un ours. Moi, des ours, j'en vois à la maison, mais ils sont tout mignons. Vous savez, ces petites peluches-là, ridicules. Ça, oui, on les prend dans ses bras, on dit que c'est tout mignon. Mais un vrai ours, c'est pas rien quand même. Hein. Et David, dans la foi qu'il avait, dans la force, le courage que Dieu lui avait donné, allait jusqu'à délivrer la bête du troupeau quand un ours venait à s'en emparer. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur David, ce n'est pas David qui nous intéresse en fait. Mais de maintenant, vous posez cette question-là. Alors, zut, j'avais oublié de vous montrer plus ou moins un berger. Et ça, c'est une belle image de berger, à la fois du berger qui porte l'animal et du berger qui se trouve devant le troupeau. Parce qu'aujourd'hui, peut-être en France, le berger ne fonctionne plus comme autrefois, du moins comme on l'entend dans la Bible. Souvent, le berger peut se trouver derrière et laisse les chiens rabattre le troupeau et faire une bonne partie du travail pour lui. Mais le berger au temps d'Israël, c'était l'homme qui se trouvait devant, celui qui conduit. Celui que le troupeau suit parce qu'il fait confiance et sait que ce berger, leur berger, va les amener là où il faut. Alors voilà, ça c'est pour la petite photo. Mais d'en venir à cette presque dernière question, avant de venir à lire le psaume qui nous intéresse ce matin. Comment David, qui connaissait Dieu, comment David qui aimait Dieu, vous aussi vous les enfants, vous commencez à bien connaître Dieu, vous l'aimez aussi j'en suis sûr, comment David qui dans sa jeunesse et par sa faible expérience, c'était un jeune homme qui n'avait eu qu'une seule expérience ou presque, à part d'avoir été enfant, c'est d'être berger. Globalement, ça s'arrêtait à là, son expérience, si on est un peu caricatural. Comment David comprenait, imaginait le Dieu qui est le sien dans sa propre foi? Bien sûr, vous voyez vers où je vous amène. Mais qui est ce Dieu que David aimait? Qui est ce Dieu en qui David avait foi? Où a-t-il saisi des images qui lui permettent de comprendre mieux encore qui est Dieu pour lui? À votre avis, là je vous pose la question, je suis tout oui. Comment pouvait-il l'appeler, en plus de l'appeler mon Dieu, Dieu d'Israël? comment pouvait-il encore l'appeler? Quelle image se faisait-il de Dieu? Le mot, vous l'avez vu au tout début. Hein. Je vous donne la réponse, bien évidemment, mais David, dans son expérience, lui qui fut simple berger, voyait en Dieu le bon berger, le vrai berger, celui que lui le conduit, pas seulement lui, mais tout le peuple de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça peut-être que je veux vous montrer, au grand comme au plus petit. Dieu, parfois, nous parle à nous, se révèle à nous dans ce que nous connaissons, dans les expériences que nous vivons. Et David s'est permis d'appeler son Dieu aussi « mon berger ». Parce qu'il voyait dans sa relation à son travail des qualités que Dieu avait, mais qui le surpassait. Lui qui était pourtant un pas si mauvais berger que ça, hein, il a quand même bravé des lions, des ours, David. Mais Dieu, pour lui, est le berger. À côté de lui, David qui n'était qu'un berger. Et David, dans son existence, a su trouver l'image qui lui rappelait qui est Dieu pour lui. Et c'est ça que je veux vous laisser ce matin, avant que nous venions à lire le psaume 23. David a vu effectivement, et on va le lire, Dieu tel le berger, le merveilleux berger, et d'ailleurs il écrivit ce chant qui est aussi une belle prière que nous allons parcourir ensemble. Alors je vous invite, puisque je crois que je n'ai pas mis le texte biblique dans à l'affichage là, de prendre pour ceux qui ont leur Bible le psaume 23. Je pense que même ceux qui ne l'ont pas forcément ou ont oublié peut-être leur smartphone à la maison, l'ont peut-être par cœur en tête, et c'est tant mieux pour cela. Mais nous allons prendre le temps de le lire ensemble et de nous mettre au profit de ces belles paroles pour nous. Voilà, habituellement on lit, puis après on parle. Là j'ai plutôt parlé et je préfère lire à la fin. Ah ben voilà, si quelqu'un n'a pas une Bible, il y a même une version très illustrée du psaume 23. Là. Alors, écoutons maintenant ces paroles de son serviteur, mais qui nous parlent plus encore de notre Dieu. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je vais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis et tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Parole du Seigneur. J'avais presque envie de m'arrêter là, mais j'avais une dernière question pour chacun d'entre nous. Encore. Une dernière, vraiment, promis. Je vous la laisse et que chacun puisse peut-être méditer autour de ce psaume encore pendant un temps. Mais que nous dit, que nous apprend ce psaume de la relation de David avec son Dieu? Et de vous le dire encore autrement, mais que me dit ce psaume de ce Dieu dans ma relation avec lui? Je vous ai dit, David, pour ici parler de son Dieu, a utilisé son expérience, lui qui était berger, a su voir en Dieu aussi le bon berger. Et avant qu'il ne devienne roi en Israël, il aimait déjà Dieu, il le connaissait bien déjà. Il savait que Dieu veillait sur lui à tout moment et qu'il le conduisait et voulait diriger sa vie, tant que David, bien sûr, acceptait de lui faire confiance et de lui obéir. Et de par sa profession de berger, David trouva dans sa propre situation, une belle illustration de qui est Dieu pour lui. Il vit Dieu, comme je l'ai dit, tel le bon berger. Une illustration qui l'aida à grandir avec Dieu dans sa vie. où les dangers furent nombreux. En devenant roi, les dangers ne se sont pas amenuisés. C'était peut-être plus des ours qu'il devait affronter, mais des ennemis. Et c'est pour cela que quand il veut louer Dieu, quand il a écrit ce psaume-là pour louer Dieu, il le cite tel un berger, tel le bon berger. Et vous tous, y compris vous les enfants, vous les plus jeunes, comment aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, comment est-ce que vous voyez Dieu dans la relation que vous avez déjà avec lui? Est-ce que c'est comme un ami à qui vous pouvez tout confier, même certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes à dire? Et vous le pouvez, c'est tout à fait vrai. Dieu est aussi cet ami en qui je peux me confier. Est-ce qu'il est comme un parent qui vous aime tendrement et vous apporte parfois conseil et sagesse pour grandir? Dieu est aussi tel ce parent-là. Est-ce qu'il est tel, pourquoi pas, un professeur qui vous enseigne la vérité, ce que vous avez besoin de connaître pour vous, afin de grandir? Il peut être aussi, c'est pas l'image biblique, mais tel un professeur. Dans ce que vous savez de lui et dans ce que vous voyez de votre quotidien, il y a parfois des images, des illustrations qui rapprochent Dieu de cette relation que vous avez avec lui. Vous avez le droit, comme David, de saisir cette image et de le prier en évoquant cette image de ce qu'est Dieu pour vous. Du moment que vous appuyez sur ce qu'il est, dans ce que vous avez reçu de sa révélation. Et sachez que les illustrations, les portraits que nous avons pour décrire Dieu ne manquent pas et que vous pouvez bien sûr en découvrir d'autres. Déjà dans la Bible, je pense l'image du berger, même si elle n'est plus tout à fait contemporaine, nous la comprenons encore assez bien. Mais plus encore, Dieu, lui, veut vous connaître. Vous qui peut-être ne le connaissez pas encore pleinement, suffisamment. Dieu, comme tout à l'heure l'a dit Gabriel, veut se faire proche de vous, veut venir vous rencontrer, veut venir vous connaître. Et il viendra se faire connaître à vous. Et il se présentera à vous avec le visage qui vous semblera accessible, familier, parce qu'il sait être ça, parce qu'il est proche. Et je reprends tout à l'heure ce qu'a dit Gabriel. Je m'arrête maintenant là-dessus, mais j'aimerais avec vous tous prier avec vous Dieu. Mais pour cela, j'avais presque fini sur mes questions. Désolé, j'en ai toujours une en tête qui me vient encore. J'aimerais vous demander, et là je me pose la question peut-être plus encore aux enfants. Dans ce psaume de David, quelle est la partie que vous avez peut-être préférée de tous ces versets-là? Mais je la pose aussi à tous, hein, y compris les grands. Quel est peut-être ce qui est dit de Dieu qui vous a interpellé ce matin? Pas hier, pas demain, mais ce matin. De ce qui a pu être dit, de cet élément de Dieu qui vous rappelle qui il est pour vous aujourd'hui, maintenant, que chacun puisse en silence regarder à Dieu, puisse le remercier pour ce qu'il est dans sa vie à propos de ce que vous avez pu relever, de ce qui vous a touché et interpellé. Et pour vous les enfants aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, dans le secret de votre cœur, dans votre silence, dire à Dieu « Merci parce que pour moi tu es ceci, cela, tu es mon ami, tu es ceci, etc. » Voilà. Que chacun nous inclinions et nous allons tous rester silencieux, moi y compris. Amen. Nous allons maintenant, dans l'instant qui va suivre, partager le repas du Seigneur. Nous allons le faire en silence, dans le temps où nous allons prendre et le pain et la coupe, pour pouvoir regarder à lui et nous rappeler ce qu'il a fait pour nous tous. Et que ce temps-là aussi soit pour chacun, en ce temps de culte aujourd'hui, une espérance, une assurance.